Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Un nouveau rendez-vous d'ensemble et j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Jacqueline Marc, qui avait fait une apparition très discrète la dernière fois dans l'émission consacrée à Daniel Henri Feuillade. Jacqueline Marc, vous êtes une ancienne prof de philo, mais philo, on le reste toute sa vie, j'imagine, c'est pas possible autrement. Et vous venez aujourd'hui nous parler d'un livre que vous venez de publier, un livre qui vient de sortir, intitulé Adorno et l'Antiquité d'Ulysse Amédée. C'est chez l'Harmattan, collection Ouverture philosophique. Alors je n'ai pas encore eu la possibilité de lire ce livre, je le ferai, mais en tout cas j'ai consulté des choses sur Adorno que je ne connaissais pas, de son vrai nom donc Theodor Wiesengrund Adorno, vous me pardonnez ma prononciation, qui est né à Francfort le 11 septembre 1903 et qui a été une grande figure de la philosophie de l'après-guerre. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à Adorno, Jacqueline ?
C'est un peu compliqué parce que c'est un intérêt relativement intime. Ça fait presque 20 ans que je travaille à Adorno, enfin que je suis intéressée par Adorno. Alors pourquoi exactement ? Je ne sais pas trop, sinon que c'est... D'abord, c'est parce que je trouve que c'est un philosophe très très contemporain pour des époques qui sont quand même des époques relativement tragiques. Deuxièmement, parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque et qu'il a, en particulier dans le livre que j'étudie, La dialectique de la raison, il a tout un chapitre très iconoclaste sur Homère, l'Odyssée et donc le personnage d'Ulysse. Ensuite, parce que, pour quelle raison encore, parce que j'ai l'impression que par goût et par... Par goût et par obsession politique, on pourrait dire. Je suis plutôt du côté des vaincus que des vainqueurs. Et que donc Adorno, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui est à la fois d'une méchanceté très grande et d'une tendresse très grande, et qui, pour ainsi dire, vous stimule dans les textes qu'il écrit, parce que il met à mal beaucoup de choses qui sont soit considérées comme des trucs canoniques de la philosophie traditionnelle, soit pas remis en question, soit il les dit autrement, quoi. Et du coup, je trouve que c'est très stimulant de lire Adorno parce que c'est un peu ce que faisait Socrate dans l'Antiquité quand on le comparait à un poisson torpille. Il vous électrise un peu, quoi. Puis il vous fait réfléchir, il vous fait... Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est quelqu'un d'injustement méconnu. Et en plus, il est à la fois philosophe, musicien. Sociologue aussi. Et en plus, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'optique critique. Mais critique, ça ne veut pas dire... il a une phrase, ça ne veut pas dire négatif au sens de destruction. Ça veut dire, il dit toujours, il faut critiquer et sauver. Oui. Les deux.
Parfois, il critique très durement.
Oui.
Heidegger, par exemple, il a miné.
Il ne supporte pas, oui, oui. En même temps, je veux dire que c'est aussi des choses qui sont épidermiques et puis qui sont liées à ce qui s'est passé pendant la guerre et après la guerre. Et donc, la façon dont probablement, c'est peut-être pas tant Heidegger lui-même que l'aura qui a entouré Heidegger et qui a fait en sorte que l'ontologie de Heidegger ou les phrases de Heidegger ont été vénérées un peu comme on vénère une religion, oui. C'est-à-dire sans critique et sans distance, oui. et sans même prosaïsme, voilà. Et du coup, je crois que ce qui énervait beaucoup Adorno, c'était cette espèce de dévotion, oui. Vis-à-vis de l'image du grand penseur qui s'isole dans sa montagne, parce que c'était la campagne, mais et qui va écrire et qui est au-dessus de ce qui se passe.
Voilà. Parce que Adorno est un philosophe dans l'histoire.
Ah, et oui, ça, c'est sûr.
On ne peut pas lui ôter cela.
Non.
C'est un philosophe dans l'histoire, dans les luttes sociales également.
Luttes sociales, dans l'histoire, et surtout dans la consternation, enfin dans la sidération vis-à-vis de ce qui s'est passé en Allemagne et en Europe et en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et je crois qu'il n'hésite pas à dire que finalement, il y avait dans les Lumières déjà le ferment du totalitarisme
Alors, il ne le
nazi.
dit pas comme ça, parce que les Lumières, il veut à la fois les critiquer et les sauver. Mais qu'est-ce qu'il reproche? Enfin, les critiquer, ça veut dire qu'il va leur reprocher un certain nombre de choses, mais en même temps, reprocher ce qui a existé, c'est pas très... Enfin, faut dire, on peut pas reprocher quelque chose qui a existé et qui a été... d'une pas linéarité, mais qui a été là. Donc ce qu'il appelle les Lumières, ça va être le projet qui naît de façon officielle, on va dire, au XVIe siècle et à la fin de la Renaissance. Donc il le situe pas avec Kant, il le situe pas. Et c'est quelqu'un qui va tordre beaucoup la chronologie, parce qu'il trouve que la chronologie, c'est pas forcément le plus important. Et donc ça commencerait avec l'espoir que, en dominant la nature, c'est-à-dire avec le progrès technique, on peut arriver à constituer le bonheur de l'humanité. Bon. Et cette conception qu'on a de domination de la nature, pour lui, domination de la nature, c'est aussi domination de soi et puis domination de l'homme par l'homme.
Oui.
Et donc, du coup, il va même projeter l'idée des Lumières dans l'Antiquité et avec Homère et avec le personnage d'Ulysse. Parce que Ulysse, c'est quand même celui, le premier, qui va... Ulysse passe 10 ans à la guerre de Troie, c'est lui qui invente l'idée du cheval de Troie, c'est le rusé, c'est le... on dit il a 1000 tours, c'est le plus intelligent. Et puis quand il part 10 ans en guerre de Troie, et puis il part pour revenir à Ithaque, et puis les dieux sont pas contents, en particulier Poséidon, et il va se perdre dans une mer où il y a plein d'obstacles et les dieux, Athéna qui les soutenait, ne peut pas l'aider. Parce que, donc il y a le cyclope, les aventures avec le cyclope, il y a les aventures avec les sirènes, il y a les aventures avec les lotophages. Les lotophages, ce sont des mangeurs de lotus, ils attirent les marins, et puis vous y allez parce que c'est bon le lotus, et après vous vous endormez, c'est la drogue qui vous fait tout oublier, et après ben, le rivage des lotophages est parsemé de cadavres et de squelettes. Et donc, il va se trouver pendant 10 ans errer sur cette mer où il n'y a que des monstres et des choses absolument abominables qui vous tuent, et il va se débrouiller. Et donc, pour ainsi dire, il va se débrouiller, ça veut dire que, enfin, pour Adorno, c'est le premier homme des Lumières parce qu'il va détruire, pour ainsi dire, les personnages, il est abandonné des dieux et il va détruire les personnages mythologiques. Et c'est uniquement par sa capacité de ruse, d'intelligence, de débrouillardise qu'il va s'en sortir. Et donc du coup, oui, c'est le premier homme des Lumières, parce que c'est celui qui montre qu'on n'a pas besoin des dieux pour vivre et pour s'en sortir. Voilà. Et donc, voyez comment Adorno va tordre cette chronologie qui fait des Lumières quelque chose qui viendrait du XVIIIe siècle, etc. C'est l'ancêtre des Lumières, c'est Ulysse. Mais lui aussi, Adorno, veut être un homme des Lumières dans la mesure où il veut casser le mythe. Enfin,
oui,
ce qu'il appelle le mythe.
Le
mythe, c'est le destin. Autrement dit, le mythe, c'est le destin, c'est la croyance que dans la vie, il y a des choses qui nous dépassent absolument et que ces choses, il n'y a qu'une façon de les vivre, c'est de les subir et d'y obéir. Voilà, il y a un destin, il est au-dessus de nous et ce destin-là, personne n'y peut rien.
Il oppose au destin la lutte, justement, la lutte politique et sociale. Est-ce que c'est un philosophe marxiste ?
Alors, il est très attaché à Marx. Mais il trouve Marx trop classique, en un sens. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, Marx reste dans cette espèce de... Enfin, pour plusieurs raisons. D'une part, dans l'idée que, finalement, dans Marx, il y a quelque chose. Dans Marx, il y a quelque chose. Hein, c'est pas tout Marx, mais bon. Il y a cette idée qu'il faut devenir vraiment adulte. Et combattre l'enfance, c'est-à-dire combattre toute une série de choses où on serait plus dans l'action, mais on serait dans la rêverie pour agir. Il va critiquer Marx aussi dans l'idée que, il faut travailler plutôt pour le lendemain que pour le présent. Les lendemains qui chantent. Hein. Et puis dans la postérité aussi, mais ça c'est pas, peut-être pas Marx lui-même, de la pensée marxiste. Mais en même temps, il va trouver dans Marx des choses qui le fascineront. Hein. En général, on dit que des gens comme Adorno, Marcuse et les gens de l'école de Francfort veulent associer Freud et Marx.
Oui. Oui, avant de mentionner Marx, je disais que oui, finalement, il opposait peut-être au destin que l'homme subit le combat politique et social.
Alors, le combat politique et social, oui, mais aussi le combat pour la connaissance. C'est-à-dire que je pense qu'il a une façon de montrer que la façon dont nous percevons les choses aujourd'hui, dont n'importe qui perçoit, regarde le monde autour de lui, cette façon-là, elle est orientée par des méthodes scientifiques ou par des qu'il appelle positivisme et qui sépare de façon radicale d'un côté la science, de l'autre l'imagination ou l'art, d'un côté les certitudes scientifiques, de l'autre les illusions ou rêveries métaphysiques ou philosophiques, et que la façon dont on nous apprend à regarder le monde ou à vivre, donc, cette façon-là, elle est porteuse de tas de cruautés et de tas de dominations. Voilà. Et donc, que ce soit en 1940 ou que ce soit aujourd'hui, il est mort en 62, donc voilà. Mais cette éducation de la perception qui refuse, qui veut dépasser ou qui veut critiquer ou qui veut nier la rêverie, l'enfance, l'imagination, le plaisir de penser gratuitement, le fait que l'inutilité des choses, le regard artistique ou esthétique, donc cette éducation qui sépare de façon radicale d'un côté ce qui serait adulte positif, sérieux, efficace, etc., et de l'autre côté ce qui serait rêveur, enfantin, inconscient, tout ce que vous voulez, cette façon-là, elle est tragique parce que elle entérine l'idée que dans le monde, il n'y a que des rapports de force. Et cette idée que dans le monde, il n'y a que des rapports de force, c'est une idée complètement catastrophique.
Est-ce que ce n'est pas une idée ?
Et en même temps, c'est celle, effectivement, que Ulysse va, pour ainsi dire, porter. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il va falloir critiquer Ulysse. Ulysse, c'est celui qui va dire « je vais m'en sortir et je vais supprimer le destin ». Mais en même temps, il voit le destin comme quelque chose qui va nous opprimer. Donc il reste dans cette optique du rapport de force. Et du coup, Adorno dit, il va lutter contre le sacrifice, le fait que le mythe demande toujours le sacrifice. Le destin demande toujours qu'on se sacrifie. Donc Ulysse, c'est celui qui va lutter contre le sacrifice et se sacrifier lui-même, parce qu'il va rester dans cette structure, mais c'est sans doute... peut-être que c'est pas possible de faire autrement, dans cette structure de l'idée que le rapport entre l'homme et la nature, c'est un rapport de force. Oui. Où il faut tantôt la dominer, tantôt être dominé par elle.
Et ça, c'est pas le point de vue d'Adorno.
Eh ben, c'est pas le point de vue. Disons que je sais pas s'il a vraiment un point de vue. Si, il a un point de vue en disant faisons attention, c'est pour ça que c'est quelqu'un il est pas offensif au sens de il prône pas la révolution. Parce que c'est quelqu'un qui va dire, avant d'agir et de renverser, il faut faire attention à ce que le renversement ne reconduise pas à l'envers les dominations ou les violences qu'on a voulu renverser.
Oui.
Bon. Donc, c'est quelqu'un qui va dire... qui va dire qu'il faut passer par un négatif, qui est lui-même une affirmation, mais que chaque fois qu'on domine, qu'on fait mal, ou qu'on domine quelque chose, qu'on nie quelque chose, on ne le détruit pas, mais on l'opprime. Et que quand on veut réfléchir, il faut d'abord chercher ce qui a été opprimé pour ainsi dire, lui rendre justice. Ça ne veut pas dire qu'on va le réhabiliter parce que ce n'est pas trop possible, puis que c'est une pensée qui est quand même relativement tragique, la pensée d'Adorno. Parce que réhabiliter ce qui a souffert, ce n'est pas le réhabiliter. Il dit rendre justice à ce qui a été opprimé.
Oui.
Autrement dit, quand vous voulez détruire quelque chose, ou quand vous Et en se plaçant du côté de celui qui a été opprimé, qui a été vaincu.
C'est voilà. Celui ou celle, et parfois c'est même l'animal.
Oui.
Hein, l'animal a une importance. Il dit plus ou moins que finalement, Auschwitz commence... Là, je vais schématiser, vous allez me gifler. Avec l'abattoir. Hein, voilà, on dit, finalement, on passe devant un abattoir, on voit un bœuf qui se fait estourbir, on dit c'est qu'un animal. Et Auschwitz, ça commence là. Il y a une phrase comme celle-ci. J'essaie de la retrouver depuis tout à l'heure, mais je n'y arrive pas. En tout cas, il avait une grande attention et sa sollicitude.
Et d'ailleurs, dans la dialectique de la raison, là, il y a la dialectique de la raison, le livre que je travaillais, en particulier le passage sur Ulysse, est composé, ça s'appelle le fragment philosophique. D'ailleurs, c'est une pensée par fragment. Le livre d'Adorno. Et donc, il y a des gros fragments et des petits fragments. Dans les gros fragments, il y a tout un ensemble sur les Lumières. Puis, il y a des choses sur l'antisémitisme que je trouve extraordinaires.
Son père était juif, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais son père était juif.
Et puis, il y a des notes, et en particulier, il y a une note sur la bêtise et il y a des notes sur l'animal. Et les notes sur l'animal, l'homme et l'animal, ça s'appelle. Et les notes qu'il a faites sur l'animal sont des notes très, très émouvantes parce que, premièrement, il dit à quel point on ne peut pas se mettre à la place d'un animal et imaginer sa souffrance parce que l'animal, il est, comme il ne parle pas, il est enfermé en lui-même. Et comme il est enfermé en lui-même, il a une espèce de terreur qui le prend. Alors maintenant, dire qu'Auschwitz, c'était comme un abattoir, il dirait que c'est presque pire.
La phrase, c'est « Auschwitz commence partout où quelqu'un regarde un abattoir et pense ce sont seulement des animaux.
» Oui, c'est vrai. Oui. Et le grand objectif d'Adorno, après la guerre ou pendant la guerre, c'est agir et penser de façon à ce que Auschwitz ne se répète pas. Et pour ça, il y a ce commencer par éduquer la perception. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui apparemment est complètement neutre, la perception. Et puis, il met partout les enjeux politiques de ces mécanismes de connaissance et de première connaissance. Et il va beaucoup, beaucoup critiquer, à tort ou à raison, les façons de penser traditionnelles, scientifiques, dans les sciences dures et les sciences humaines, et en particulier la sociologie, en critiquant l'objectif de neutralité des sciences humaines. Et puis certaines méthodes aussi de sciences humaines qui mettent par exemple les statistiques en avant et qui font comme si une fois qu'on a fait des statistiques, on connaît les choses.
Finalement, c'est quelqu'un qui critique en permanence l'autorité, qui attaque l'autorité.
Ah oui, c'est sûr. Et il attaque l'autorité dans la mesure où il attaque l'idée que, premièrement, il faudrait de l'autorité et que, deuxièmement, le monde est construit sur des rapports de force.
Sur des schémas.
Des rapports de force. Et il est toujours du côté de ceux qui sont dominés. Parce qu'il y a eu une violence des dominants. Et que cette violence... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il construit des nouvelles... c'est pas des théories, parce qu'il construit de nouvelles images de l'origine de l'humanité, dans une imagination théorique qui serait celle de la naissance de l'humanité. Il y aurait d'abord la terreur, voilà. La terreur de la disproportion des forces. Et ça ressemble un petit peu à des textes de Freud, qui parle du petit enfant en disant que le petit enfant, il est pour ainsi dire coincé parce que d'un côté, l'adulte qui le nourrit, enfin, il a une conscience absolument terrifiante de sa fragilité. Et d'un côté, la personne qui vient le nourrir ou le faire grandir, c'est la personne secourable, mais en même temps que quelqu'un pour vous est secourable, eh ben, il est dangereux parce
c'est la toute-puissance.
Il peut vous détruire. Donc il peut vous sauver et vous avez besoin de lui pour vous sauver, mais en même temps, il peut vous détruire. Et du coup, il y a sans arrêt ce côté contradictoire, ambivalent et tout, qui fait qu'on est jamais dans dans l'harmonie et la sécurité.
Alors, il y a un passage dans la biographie d'Adorno qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui critique l'autorité, qui se défie comme ça des rapports de force. On se dit, bah tiens, il aurait pu accueillir avec passion les mouvements gauchistes de la fin des années 60. Eh bien, pas du tout. Il va au contraire y voir une sorte de fascisme sournois rampant.
Sournois, fascisme sournois, peut-être pas, mais ce que déteste Adorno, c'est l'idée que c'est l'idée qui est fasciste, et pas seulement, de l'immédiat, de l'immédiateté. Et donc, dans tous les mouvements de spontanéité, de spontanéisme maoïste, par exemple, des années 68, il y voit quelque chose qui revient à... comme s'il pensait que dire le contraire d'une chose, c'est la même chose que cette chose. C'est-à-dire que si on est dans le spontanéisme et la dérision et la destruction des idoles ou de l'autorité, bah, si on est dans la destruction de l'autorité, on reconduit l'autorité. C'est-à-dire, Adorno, c'est un penseur dont il dit qu'il est le penseur de la médiation. Il faut toujours des médiations. Et quand on parle, on est dans la médiation entre l'objet et nous. Et quand on veut aller directement aux choses, eh ben c'est là que c'est là que qu'on fait rien et que on reconduit les violences qui nous ont abîmés. Et quelqu'un qui est abîmé ne peut jamais, et nous sommes tous abîmés, ne peut jamais être dans l'immédiateté de la révolte, de la résistance, parce que ça reconduit à des violences. Moi, j'imagine que Adorno, c'était quelqu'un qui est matérialiste, parce que pour lui, ce qui compte, c'est le corps, hein, c'est le corps vivant et le corps heureux. Et l'animal, bon, justement, là. Mais il est non-violent, au sens où... pour non-violent au sens pas forcément pacifique, parce que quand on lit son livre, il y a des violences verbales qui sont terriblement jouissives, je dois dire. Mais il est non-violent parce que il est dans l'idée qu'il ne faut pas détruire les choses. Or, ce qu'il déteste dans les mouvements 68 heures, c'est pas la résistance, c'est pas... mais c'est par exemple jouissons sans entrave.
Oui.
Ça, il va dire, c'est pas... Enfin, jouissons sans entrave, ça veut rien dire. Et puis en même temps, peut-être aussi les fascistes, ils jouissaient sans entrave. Je veux dire, Quand vous assassinez quelqu'un, vous jouissez sans entrave. Ça,
il avait perçu ce qu'avait dit Freud sur les rapports entre la mort et la sexualité, par exemple, entre le... Est-ce qu'il y a...
Il fait quand même des analyses qui sont tirées de la psychanalyse. Moi, je pense qu'il y a une énorme complicité entre Freud et Adorno. Mais d'abord, il ne va pas moraliser, d'une part. Et puis d'autre part, les rapports entre la mort et la sexualité, ça peut... c'est un peu de la tarte à la crème, quoi. Enfin, je veux dire... Enfin, c'est pas de la tarte à la crème, mais c'est un peu du genre à vous dire, ah ouais, chaque fois qu'il y a de la sexualité, il y a de la mort, parce que...
Mais il y a des rapports de force, ce qu'avait mis en lumière Freud.
Ah oui.
Dans l'acte sexuel, il y a des rapports de force. Dans la sexualité, il y a souvent des rapports de force qui s'établissent.
Ah oui, mais qui va critiquer la position des femmes, bien sûr. La position des femmes dans l'acte sexuel, mais en même temps il va dire des choses sur les femmes qui sont... il est féministe au fond parce qu'il est du côté des vaincus et il est du côté de ceux qui sont opprimés, mais il a une façon de parler de la psychologie des femmes, que ce soit la prostituée, l'épouse ou la femme nazie, hein, qui, dit-il, quelquefois, les femmes dans le nazisme étaient infiniment plus violentes que les nazis eux-mêmes. Parce que quand vous subissez une oppression, ben vous voulez vous venger. Voilà. Et que plus vous êtes opprimé, plus vous avez envie de vous venger. Et que la vengeance, c'est quelque chose qui va reconduire à la violence que vous avez subie.
Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui... On arrive à la fin de cette émission. Oui. Qui vous inspire dans votre vie Bah, par exemple, vous faites partie du collectif des sans-papiers.
Oui.
Vous prenez le parti de celui qui est dans l'état de faiblesse totale, qui est à la merci, qui est à la merci de celui qui, de l'habitant, chez qui il débarque un beau jour, quoi, finalement, c'est ça.
Oui, il m'inspire dans ma vie, probablement, mais il y a plein d'autres choses qui m'inspirent dans la vie. Et puis, le livre que j'ai écrit, j'ai ajouté à ce qu'a dit Adorno sur Ulysse. Moi, j'ai voulu ajouter pour faire un essai. J'ai voulu comparer ce que Adorno dit sur Ulysse à d'autres personnages mythologiques, et en particulier le personnage justement féminin de Médée, puisque Médée, c'est elle va être à la fois victime et tortionnaire, puisque elle est victime parce que justement c'est une étrangère, c'est une sans-papiers, sauf qu'elle est venue volontairement par amour pour Jason. Elle est venue donc, elle est venue pour changer de vie. Ça peut être aussi sort des sans-papiers, mais elle est venue surtout par amour pour le conquérant. Ouais. Elle est venue par amour pour le conquérant et elle va être abandonnée par ce conquérant, mais d'une façon presque inévitable. Et elle va assassiner la nouvelle femme de Jason, et elle va, pour assassiner cette nouvelle femme, elle va tuer ses propres enfants. Donc, en même temps, c'est le tragique complet. Et en même temps, c'est l'expression de la catastrophe qui arrive quand on veut se venger et renverser les rapports de force. Donc, ça serait une Ulysse, il y a la face, on va dire, puis on va s'arrêter là. La face claire d'Ulysse, c'est les lumières. Bon, voilà, la face claire, les lumières. La face noire d'Ulysse, c'est les sacrifices qu'il fait pour les sacrifices de sa propre personne qu'il fait, enfin de sa propre personne, de justement de sa spontanéité, qu'il fait pour se sauver. Et la face encore plus noire d'Ulysse, ça sera Médée, puisque Ulysse, quand il va revenir à Ithaque, va se venger des prétendants. Il va tuer tout le monde. Il va fomenter une guerre civile, pour ainsi dire. Et c'est Athéna qui vient et qui dit « Maintenant, ça suffit, vous allez tous vivre en paix. » Bon. Il continue à chercher à se venger malgré tout ce qu'il a appris pendant ces 10 ans. Et Médée, elle va se venger et on ne sait pas si elle va s'en sortir.
Merci beaucoup, Jacqueline. Je rappelle le titre de votre livre, Adorno et l'Antiquité, d'Ulysse à Médée, de Jacqueline Marre. C'est chez L'Harmattan, collection Ouverture philosophique. Un grand merci à vous.